Voilà, donc effectivement, on va regarder plusieurs éléments sur la question du travail. Donc c'est vrai que je risque de beaucoup parler, mais voilà, faut pas hésiter hein, à m'interrompre, à être dans l'interaction. Je pense que c'est plus utile pour chacun d'entre nous. En 2019, donc en début d'année là. Il y a une philosophe française qui est venue en Suisse. On connaît son nom de famille, mais elle, on la connaît pas trop. Elle s'appelle Julia de Funès. C'est la petite fille de Louis de Funès, donc c'est plutôt le gars qui nous fait rigoler. Elle, elle fait un peu moins rigoler. Mais elle est venue effectivement pour aborder la question du bonheur au travail. Question qui est assez à la mode actuellement. Et pour voilà poser cette réflexion, mais comment aider le travailleur? Comment prendre soin de celui qui s'investit dans son entreprise? Et elle a voulu aborder en fait les problèmes actuels du monde du travail en parlant effectivement des problèmes qu'on trouve actuellement. Et elle a mis en avant le burn-out, qui est un syndrome d'épuisement professionnel. Le bore-out, qui est un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, en fait. On s'ennuie au travail, c'est pas très intéressant dans ce qu'on fait. Ou alors le brown-out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel provenant de l'absurdité de la tâche à accomplir. Donc, il y a des choses que j'ai découvert aussi avec elle, hein. Mais effectivement, il y a des personnes qui font des travaux qui sont pas très agréables, pas très motivants. Ah, je suis mal placé en fait, hein. Attends, je peux ah ben... par rapport à chacun, j'ai mal placé à un moment donné, donc désolé. Ok. Ou c'est vrai qu'il y a l'aspect parfois répétitif de la tâche, ou ben au final on fait plus un travail parce qu'il faut faire un travail plutôt que par joie, par passion de ce qu'on fait. Et elle s'en est prise dans son intervention en fait aux réponses des entreprises. Où la réponse était plutôt une volonté de distraire l'employé, de lui apporter du bienfait, du bien-être dans son entreprise, par exemple avec des services de baby-foot, ben voilà, puis qu'il puisse se détendre, ou de massage, ou plein d'autres services. Effectivement, si on va à Google, aux États-Unis, il y a tout. Il y a le coiffeur, il y a la laverie, il y a les personnes qui s'occupent de notre voiture, etc., etc. En fait, il y a même tous les repas qui sont mis à disposition, et tout ça, bien sûr, c'est gratuit, pour que, en fait, l'employé n'ait plus à quitter son travail. Mais quelque part, on s'occupe de son bien-être pour, au final, l'aider à plus travailler et, au final, plutôt l'utiliser. Et selon elle, en fait, ça résout absolument rien. À la situation des travailleurs, ça l'empire parce qu'on les infantilise. Et toute sa réflexion, en fait, c'est de proposer et d'aider à retrouver le sens. Quel est le sens de notre activité? Quel est le sens de notre action, de notre travail? Et c'est cette question-là que j'aimerais qu'on se pose, en fait, ensemble. Effectivement, c'est une question qui est très importante pour chacun d'entre nous. Quel est le sens de notre travail? Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs fois utilisé le mot travail, peut-être par habitude, mais on va élargir cette définition. C'est pas seulement la question du travail rémunéré qu'on veut aborder pendant ces quelques heures, mais c'est le travail de type, comme Josué l'a dit, c'est notre activité. Donc c'est vrai aussi autant pour des retraités que pour des parents au foyer, que pour des chômeurs, des personnes qui s'investissent dans les associations ou ceux effectivement qui sont dans une entreprise. Et donc, c'est cette question de pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots nous faisons ce que nous faisons. Et en tant que chrétien, on veut surtout se poser cette question par rapport au Dieu de la Bible. Quel est le sens que Dieu donne à notre travail? Pourquoi et pourquoi nous travaillons d'après le Dieu de la Bible? Et si on réfléchit en plus à notre semaine, pour vous qui travaillez, mais a priori, à part les pasteurs là, c'est les autres oui, ou les retraités. Mais on passe 40 heures par semaine dans un travail à peu près, n'est-ce pas, dans notre activité professionnelle. Et si on compare ces chiffres à nos autres occupations, qui sont de dormir, de manger, d'aller faire du sport, de lire, même de lire la Bible, de se réunir en église, etc. En fait, le sommeil est le poste le plus important dans nos vies, et le travail est le deuxième poste le plus important dans nos vies. Bien avant notre lecture de la Bible, nos réunions d'église, nos repas, etc. Et donc si le travail, notre activité occupe une telle importance dans notre vie, c'est vraiment important aussi qu'en tant que chrétien, on réfléchisse à cette question du sens de notre travail dans les mains de Dieu, au regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu par le travail, pour le travail, envers nous? Quel lien il existe entre notre foi et notre activité? Et c'est pour ça, donc, on va regarder un peu les différents, ah ben voilà, ça c'est la question. Hop, les différents points. Donc, notre activité à l'origine, comment Dieu l'a voulu. Notre activité maintenant dans un monde en faillite. Et effectivement, on vit toujours dans ce monde en faillite actuellement. Et comment la Bible aborde aussi cet aspect-là. Et notre activité qui a été transformée, métamorphosée par l'Évangile. Comment notre Seigneur nous réoriente notre activité professionnelle, et on va voir que l'Évangile nous propose un nouveau maître et un nouveau sens. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et demain, au culte, ce sera en quoi notre activité est utile dans la main de Dieu pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Ça va? Jusque-là, vous me suivez avec ça alors, avec ce plan? Alors, on commence avec le travail à l'origine. Quel est le sens que Dieu a donné à notre activité au moment de la création? Qu'est-ce qu'il a voulu? Et quel impact alors cela devra avoir aujourd'hui pour nous? Alors, je vous propose de prendre les deux premiers chapitres de la Genèse et on va faire quelques lectures dedans. Et on va commencer avec le chapitre 1 au verset 26. La première chose qu'on peut voir et qu'on va lire ensemble, c'est que le travail est une mission que Dieu nous a confiée. Donc je lis à partir du verset 26. Dieu dit, donc on est toujours dans ce texte de la création et maintenant on arrive vers l'être humain. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et ce qui est assez impressionnant dans ce texte-là, en fait, c'est que Dieu crée immédiatement l'homme avec une mission qui lui confie, pardon. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Alors que l'homme et la femme ne sont même pas encore créés, Dieu lui attribue une activité, une mission, pour qu'il domine. Et il ne s'agit pas ici d'une domination cruelle ou destructrice, qui est simplement pour son intérêt personnel. En effet, si on va plutôt au chapitre 2, où on a un aspect complémentaire à ces textes-là, au verset 16, il est écrit ceci, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ah pardon, verset 15, excusez-moi. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et au verset 19, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Donc cette domination ici consiste à cultiver, à garder, à prendre soin, à entretenir. Donc on n'a absolument rien de cruel, de dominateur dans le sens destructeur. Et effectivement, même chose vis-à-vis des animaux qu'ils ne pouvaient pas manger, qu'ils n'avaient pas le droit de manger à l'époque, hein, c'était de les nommer. Donc il n'écrase pas, il n'utilise pas à son profit personnel, mais il prend soin. Dieu a donné comme mission à l'homme et à la femme de dominer dans le sens d'ordonner. ordonner la création, organiser, de favoriser en fait la vie et la beauté. Ils ont donc reçu un monde harmonieux de la part de Dieu, ce jardin qui est harmonieux, harmonie dans la relation avec le Créateur, harmonie dans la relation entre les êtres humains et harmonie dans la relation avec tout l'aspect matériel, vivant aussi de la création autre que les êtres humains. Et ils l'ont reçu en cadeau de la part de Dieu. Et cette mission que Dieu leur confie, c'est de maintenir cette harmonie, de préserver, de garder et de la développer sur toute la terre. Effectivement, le jardin est appelé à grandir. Et ça, l'homme peut le faire grâce aux compétences que Dieu lui a données en le créant. Compétences manuelles, compétences intellectuelles, compétences artistiques, créatrices, etc., qui viennent de Dieu. Donc tout un ensemble de compétences que nous actuellement on a tendance à mettre en opposition, n'est-ce pas? Les aspects manuels en opposition à l'intellectuel, ou l'aspect artistique à l'aspect réflexion, raison. On a tendance à mettre cela en opposition, mais au départ, Dieu a donné ces différentes compétences pour maintenir, garder et développer l'harmonie que Dieu avait donnée. Et regardez juste aussi encore au chapitre 1, il y a un élément assez intéressant. Chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Et je passe au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit, et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche, et il appela mer la masse des eaux. Est-ce que vous remarquez quelque chose de commun par rapport à la mission de l'homme? Ouais, Yvan? Nommer, effectivement. En fait, le premier qui nomme et le premier qui organise, c'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui organise et qui nomme. Et quand Dieu demande à l'homme, lui donne pour mission d'organiser et de nommer, il lui demande rien de plus que de faire la même chose que lui-même a fait. En fait, il lui demande de prendre la suite de son travail. Et c'est ça la mission de l'homme, en fait, c'est de rentrer dans le travail de Dieu et de prendre la suite du travail de Dieu, de s'inscrire dans l'œuvre même de Dieu. Et effectivement, avec le premier chapitre, on voit que Dieu crée et repousse le chaos, et il appelle l'homme ici à s'inscrire dans sa suite, à organiser, à nommer et à repousser, à continuer à repousser le chaos pour que ce soit le jardin harmonieux qui s'empare de plus en plus de la terre. Et l'homme fait cela au travers donc de toutes ses compétences, de toute son activité, c'est-à-dire au travers de son travail. Par son travail, l'homme agit ici, selon la mission que Dieu lui a confiée. Et le travail ici est qualifié de très bon. Et c'est vrai que souvent, en tant que croyant, en tant que chrétien, on a tendance à voir le travail comme une malédiction. Mais ce n'est pas du tout le reflet que nous donnent les deux premiers chapitres de la Genèse. Le travail est une bénédiction. Et même beaucoup plus que cela, en fait. Parce que vu qu'on s'inscrit à la suite de notre Créateur, en fait, c'est en travaillant qu'on est vraiment image de notre Créateur. C'est quand on travaille qu'on est vraiment porteur de l'image et de la ressemblance de Dieu. On travaille parce que Dieu travaille. Et ça, c'est énorme. Et voyez toute la dignité qui est donnée à notre travail ici. Quelle que soit notre activité, quel que soit notre travail, qu'il soit bien vu par la société ou mal vu par la société, le travail a une énorme valeur. Parce que quand on travaille, on met en avant notre ressemblance à notre Créateur. Il y a donc énormément de dignité là-dedans. Mais avec la chute, c'est la pénibilité du travail qui est introduite. Le travail devient difficile, mais le travail est une très bonne chose. Et ça, c'est vrai encore après la chute. Vous vous souvenez, dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit, tu travailleras 6 jours, n'est-ce pas? Et tu te reposeras un jour. Et pas l'inverse. Tu travailleras 6 jours. Ça reste toujours une bonne chose de travailler même après la chute. Donc pourquoi, en un seul mot, travaillons-nous? En fait, on travaille parce que Dieu nous a créés pour travailler. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir une réaction là, parce que on vient vite en disant que le travail est une idole, n'est-ce pas? Et c'est vrai, ça peut. Et donc on dit, il ne faut pas vivre pour travailler. Et pourtant, ici, on voit qu'il faut vivre pour travailler. En fait, on vit pour travailler, on a été créé pour travailler. Mais c'est vrai qu'il faut garder cet équilibre, que ça ne doit pas devenir une idole. Ça ne doit pas devenir notre raison d'être. Mais ce travail est une très bonne chose pour repousser le chaos et poursuivre l'harmonie sur cette terre. Mais cela va encore plus loin que simplement cette mission et de repousser le chaos. C'est en fait dans quel sens? Et on voit que le travail, c'est aussi pour servir mon prochain. Et effectivement, le terme cultiver qui est utilisé en 2.15 est parfois traduit, selon la version que vous avez, mais même dans d'autres textes bibliques, par le terme de servir. Cultiver, c'est servir. Et il est clair que Dieu ne place pas l'homme dans le jardin juste dans le but de servir le jardin. Le jardin n'est pas l'objectif, le but ultime. Mais voilà l'objectif. Je reviens au chapitre 1, excusez-moi, je fais quelques allers-retours. Verset 28. Dieu les bénit, donc l'homme et la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Donc quel est l'objectif ici de servir le jardin, de prendre soin de l'harmonie, de multiplier de développer cette harmonie? Quel est l'objectif ici? C'est pour la descendance qui vient. C'est pas juste pour nous et notre plaisir à nous deux, mais on prend soin du jardin, on organise, on nomme, on développe cette harmonie pour la descendance qui vient. Le fait d'être féconde, de se multiplier et de remplir la terre. Si on remplit la terre dans quelque chose de chaotique, c'est toute notre descendance qui va en porter les conséquences. Mais ici, Dieu oriente vers l'être humain à venir. Par notre travail, en fait, nous servons notre prochain. Nous prenons soin de lui. Et c'est dans ce sens aussi que Martin Luther, à propos de la prière de Jésus, cet élément de la prière, donne-nous notre pain quotidien, a fait la remarque suivante, c'est que Dieu nous donne notre pain quotidien par le travail du paysan et par le travail du boulanger. Dieu prend soin de l'être humain par d'autres êtres humains. Par notre travail, il nous appelle à servir notre prochain. Au final, à aimer notre prochain par notre travail. Dieu prend soin de chaque être humain créé à son image par la médiation d'autres êtres humains créés à son image qui travaillent, qui agissent. Encore une fois, pas seulement un travail rémunéré, mais une activité, qu'elle soit rémunérée ou pas. Et à cause de cela, chaque activité compte et chaque activité est utile dans la main de Dieu. Et je reprends un exemple qui est assez facile, n'est-ce pas? Mais c'est un parent au foyer. Qu'est-ce que ça vaut dans notre société, un parent au foyer? Ah, il y en a qui sont au foyer et qui le vivent. Et effectivement, ça, on est très mal regardé, n'est-ce pas? C'est quoi est-ce que tu as des remarques que tu entends? De la part des mamans quand tu amènes les enfants peut-être à l'école ou à la crèche ou autre. Ouais, c'est ça, tu vis quelque chose d'anormal, quoi. Et au final, ben c'est pas bien, ça coûte à la société, quoi. Et donc c'est très très mal vu. Mais au travers de ces textes et même la société, quelqu'un qui, je crois que c'était l'ingénieur qui a créé le tunnel sous la Manche, a montré toute l'importance des parents au foyer. Parce qu'il y a en fait un gros investissement et que c'est pour c'est à long terme que ça porte du fruit et que même économiquement, c'est plus intéressant. Mais où, en fait, le service du prochain n'est pas une question de combien ça rapporte, mais simplement de la valeur du prochain et de l'aimer. Et c'est dans ce sens-là que notre texte va. Il y a un théologien qui nous fait réfléchir à cela en nous posant la question suivante. Imaginez un instant la situation suivante. Si tout le monde cesse à partir de maintenant son activité, si tout le monde cesse son activité, qu'est-ce qui va se passer? Mais réfléchissez, qu'est-ce qui va se passer dans notre société? Qu'est-ce qui va se passer en France? Alors peut-être cet après-midi, il n'y aura pas de problème, demain non plus, mais dans les semaines à venir, qu'est-ce qui va se passer? Si tout le monde arrête son activité, très rapidement, il y aura le chaos, effectivement. En fait, il n'y aura plus à manger dans les supermarchés, n'est-ce pas? Et ça, on le voit ce que ça donne quand ça arrive dans certains pays, n'est-ce pas? Fini l'essence dans les stations essence. Ce qui veut dire que la police, elle a plus d'essence pour patrouiller. Donc, la sécurité est moins assurée. Les pompiers n'ont plus d'essence. Donc, si vous avez un incendie ou si vous avez un problème d'accident, il n'y a personne qui intervient pour vous. Toute communication s'arrête. Fini le téléphone portable, fini Internet, fini, voilà, toute communication. Donc, les liens entre vos enfants qui sont à Strasbourg ou qui sont n'importe où ailleurs pour étudier, ben, fini. Pas de transport de médicaments, pas de transport de matériaux de construction. Et au final, en fait, ceux qui survivent, nous dit-il, se retrouvent bientôt autour du feu, dormant dans des cavernes et habillés avec des peaux d'animaux. Et il dit, la différence entre l'état sauvage et la culture, c'est quoi? C'est notre activité. C'est notre travail. La différence entre l'état sauvage et la culture est simplement le travail, notre activité. Par notre travail, nous servons notre prochain pour lui apporter sa nourriture, effectivement, son vêtement, son éducation, sa santé, sa sécurité, sa détente même. Encore une fois, par un travail rémunéré ou non, les gens sont éduqués. Les sociétés sont élevées et les personnes sont mises en relation. Ce qui veut dire que par notre activité, en fait, on accomplit le deuxième plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu le fais, entre autres, par ton activité, par ton service, pour le bien de l'autre. Et là, j'aimerais te poser cette question alors. En quoi, dans ton travail, tu aimes ton prochain? En quoi, dans ton activité, que tu sois retraité ou pas, que tu sois parent au foyer ou pas, ou que tu sois dans une activité rémunérée ou pas, en quoi, dans ton travail, tu aimes ton prochain? Et cette question est extrêmement importante parce qu'elle va déterminer ta manière d'aller travailler lundi ou de t'investir cet après-midi. Il nous faut voir et réfléchir dans notre activité, quelle est la part de notre amour pour le prochain? Effectivement, il n'y a pas tout qui correspond à l'amour pour le prochain, mais quelle est cette part? Il faut qu'on puisse y réfléchir pour retrouver quelque part le sens et la motivation. Pour quelqu'un qui travaille dans le médical, c'est peut-être facile, on va dire, moi j'aime en soignant, n'est-ce pas? Pas de problème. Peut-être quelqu'un qui est prof va dire, c'est facile aussi, j'aime en éduquant. Dans l'église, j'ai quelqu'un qui est technicien à l'armée. En quoi il aime quelqu'un qui pose des bombes sur des avions militaires? En quoi il aime son prochain? Ça peut devenir chaud, n'est-ce pas? Surtout si on a une approche pacifiste. Question que je vous pose, en quoi un technicien de l'armée vous aime? Il vous protège, hein? Alors, il y a cet aspect-là aussi, ouais, tout à fait. Et de gagner de l'argent pour sa famille, et donc de pouvoir en prendre soin, de pouvoir habiller ses enfants, de pouvoir les nourrir, etc. Ouais, extrêmement important. Mais effectivement, il y a l'aspect de protection, hein? Quelqu'un qui est à l'armée, on est en sécurité dans notre pays parce qu'on a des militaires et on a des policiers. Si on avait zéro policier, zéro armée, en fait, peut-être que la France n'existerait plus, hein. Soyons clairs. Et c'est la même chose pour toute personne. Et donc, je te rends pour toi cette question. En quoi, dans ton travail, tu aimes ton prochain? Qu'est-ce qui contribue dans ton travail à l'amour du prochain? Alors c'est vrai que il est touché par la chute, par le mal, par le péché, et parfois ça semble perdre de son sens, de son utilité, mais on a besoin d'y réfléchir à nouveau pour accomplir joyeusement le travail. En quoi quelqu'un qui travaille à Peugeot aime son prochain? Ouais, tout à fait. Alors oui, dans l'entraide, effectivement, même si ça se passe mal entre collègues, de pouvoir avoir une autre attitude, de se rappeler, ouais, c'est mon prochain, il est créé à l'image de Dieu comme moi, j'interviens, mais effectivement, comme a dit Michel, quoi, simplement assurer une bonne sécurité, avoir le souci du travail bien fait, parce qu'au final, à la fin, c'est les accidents ou pas. Effectivement. Donc on travaille pour le soin. Et je rappelle ce que Jean a dit, ce qui est extrêmement important, hein, et c'était parfois aussi en tant que chrétien, on peut avoir du mal, mais est-ce qu'on travaille pour l'argent? Et Jean a répondu, il a dit oui, en partie. Effectivement, parce qu'on a besoin de cet argent pour prendre soin des autres. On a besoin de cet argent pour le conjoint, si on en a un, pour les enfants, si on en a un. C'est vrai que quand j'étais célibataire, bah, je pouvais faire un peu le travail que je voulais, j'avais pas besoin de grand-chose, en plus j'habitais chez mes parents, donc c'était cool. Mais à partir du moment où j'étais marié, j'avais des enfants, ben je dois vraiment faire un travail qui me rapporte aussi de l'argent parce que j'ai une responsabilité envers mes enfants. Donc c'est pas forcément de tout mettre de côté, de devenir extrêmement riche, mais c'est simplement aussi d'aimer mes enfants. Et parfois ça va être d'aimer le frère et sœur dans l'église pour donner ou quelqu'un d'autre à l'extérieur. Hein, si c'est pas que dans l'église. Donc travailler un service pour le prochain. Et troisième élément qu'on peut voir avec les textes de la création, c'est que travailler, c'est une adoration vers Dieu. Et effectivement, ce qui est assez intéressant dans nos deux premiers chapitres, c'est qu'il y a un grand absent de la description. Et le grand absent, c'est l'adoration, n'est-ce pas? On ne voit pas du tout Adam et Ève taper des mains, chanter, prier, et encore moins lire la Bible, n'est-ce pas? Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ne dit pas, ben voilà, je vous ai créé et une des choses que je vous demande, c'est de m'adorer. Pourquoi on a toute cette instruction après la chute, n'est-ce pas? Mais pas là. Pourquoi pas au départ? Ça ne devrait pas être fondamental, justement, cette relation avec Dieu. Voilà ce que dit David dans un de ses psaumes. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Et David ici nous dit que avec un langage poétique, quelque part, la nature adore Dieu. On peut se poser la question, mais en quoi la nature adore Dieu? Alors c'est clairement avec la théologie juive, c'est clair qu'il ne voit pas des esprits dans les arbres, dans chaque animal, etc. N'est-ce pas? Mais simplement, que chaque élément de la nature, en étant ce qu'il est, en étant cet élément créé par Dieu, voulu par Dieu, la nature reflète la gloire de Dieu, et en cela, la nature, en étant simplement ce qu'elle est, glorifie Dieu, adore Dieu. Et c'était vrai pour l'homme et la femme au départ. En fait, il n'y avait pas besoin d'instruction à adorer, il n'y avait pas besoin de commandement même à adorer ce que nous on a besoin, parce que ils n'étaient pas vrillés. Ils n'étaient pas corrompus. Nous, on a besoin de cette instruction, on a besoin de ces commandements même. Parce que, en fait, on a été corrompus. Et notre tendance est d'aller adorer autre chose. Alors que, à la création, naturellement, l'adoration était portée vers Dieu. Ils adoraient Dieu simplement en étant ce que Dieu voulait qu'ils soient. En étant en relation avec leur créateur, en aimant, en prenant soin du conjoint et en organisant la création, en travaillant, ça veut dire. Ils adoraient Dieu simplement en travaillant. Par notre travail, on adore Dieu. Et assez aussi intéressant de remarquer que les verbes qui sont utilisés au verset 15 du chapitre 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En fait, ces deux verbes, quand on les retrouve ensemble dans la suite de la Bible, ils sont utilisés pour décrire le travail du Lévite, pour décrire l'activité du Lévite. Donc celui qui était en charge du culte, c'est eux qui célébraient le culte, et c'est le même terme que cultiver. Et c'est eux qui étaient responsables de garder la parole de Dieu, de garder la loi, qui est exactement ce même terme ici. Donc quelque part, Adam et Ève étaient un peu comme des Lévites dans le jardin d'Éden. Et il y a Ézéchiel qui nous invite aussi à cette réflexion quand il nous parle du roi de Tyr sur lequel Dieu prononce un jugement au travers du prophète Ézéchiel. Voilà ce qu'il dit. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est-à-dire que Ézéchiel et Dieu, en regardant les textes antérieurs, donc le texte de la Genèse, de la création, regardent le jardin d'Éden comme étant quoi, d'après ce texte-là? Comme quel est, t'as dit quoi? Un temple, simplement un temple. Là où il y a Dieu, sur la sainte montagne de Dieu. Et l'homme était vu comme un chérubin protecteur. C'est-à-dire qu'avec du recul, on nous apprend effectivement que le jardin d'Éden était simplement le temple de Dieu et que Adam et Ève avaient un peu cette fonction de sacrificateur, d'être là pour adorer Dieu. Et comment? Simplement en vivant. Entre autres, par rapport à notre thème, en travaillant. Pour vous qui êtes mariés, en aimant son conjoint. En faisant une seule chair avec le conjoint. C'est comme ça qu'on adore Dieu aussi. En servant le prochain, la descendance qui va venir. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Mais ici, notamment aussi, par rapport à notre thème, en travaillant. Donc, ce qui s'apparente, effectivement, dans un premier temps, à simplement de l'agriculture, se retrouve être de l'adoration. L'adoration voulue à Dieu, l'attachement. Et cette adoration correspondait simplement à vivre ce pourquoi Dieu nous a créés, simplement dans notre quotidien. Et donc pas de séparation entre le religieux et le profane. Et ça va se retrouver en fait même dans la bouche de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus-Christ dira plus tard. Jésus répondit, face à une question qui a été posée, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et ici, par ce résumé de la loi, par ce résumé de la volonté de Dieu, Jésus est en train de dire qu'aimer Dieu de tout notre cœur ne signifie surtout pas de se réunir le dimanche matin de 10h à midi. Et un mercredi soir par semaine, ou un jeudi soir par semaine, ou autre. Le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, doit englober et impacter toute notre vie. Ce qui veut dire notre travail aussi. Ce qui veut dire notre activité aussi, notre retraite aussi, notre chômage aussi, notre activité à la maison en tant que parent en foyer aussi, notre activité dans une association aussi. Absolument tout. Par notre travail, nous adorons Dieu et nous aimons notre prochain, ou en tout cas, on devrait le faire. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont dans une activité, c'est que demain, lundi, vous n'allez pas au travail. Lundi, vous allez au culte. Vous allez au culte à Roufac pour soigner les personnes. Vous allez au culte. Vous allez au culte au lycée pour vous réjouir de retrouver tous ces adolescents. Et pour les aimer comme soi-même, etc., n'est-ce pas? Et c'est là où ça doit se poser cette question pour nous, en fait. Cela, si c'est ça que Dieu a voulu pour nous, ces trois points, une mission confiée par Dieu, un service pour mon prochain, une adoration envers Dieu, qu'est-ce que ça devrait alors changer pour moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça devrait changer dans ma journée, dans mon entreprise, comme bénévole? Alors je suis désolé, là j'ai parlé avec un article que j'ai lu en Suisse, mais il y a un article qui est apparu encore cette année qui parlait des valeurs suisses. Et il affirmait que voilà, en Suisse, et je crois que c'est vraiment vrai en France aussi, le travail a une grande importance et c'est ça qui donne de la valeur aux personnes. Notre travail rémunéré cette fois-ci. C'est ça qui donne de la valeur aux personnes. Et cela est tellement poussé que c'est ressorti dans une étude que les Suisses considèrent seulement un vrai Suisse, celui qui ne dépend pas de l'aide sociale. Si tu dépends de l'aide sociale, tu n'es pas un... T'as beau avoir la nationalité suisse, tu n'es pas un vrai Suisse. Un vrai Suisse travaille. Un vrai Suisse gagne de l'argent. Un vrai Suisse met de l'argent sur son compte. Un vrai Suisse est indépendant et se débrouille tout seul. Et ici, l'Évangile vient en fait transformer notre échelle de valeur avec ces trois aspects dès la création de ce que Dieu a voulu pour nous. Parce que le travail n'est plus une manière de démontrer notre valeur ou de gagner notre valeur, ou même de donner du sens à notre vie. Parce que le travail n'est plus centré sur moi, mais qu'il est centré sur mon prochain et sur Dieu, alors cela nous libère d'une énorme pression. Ça nous libère dans nos rapports les uns avec les autres. Ça libère celui qui a un travail rémunéré d'un esprit de compétition malsain, où l'on cherche à faire sa place, en écrasant, en dominant, voire même s'il le faut, en trichant et en volant. Je me rappelle avoir discuté avec un voisin à, par ici, qui travaillait à Peugeot. Et vite, parce qu'on n'est pas content de certaines choses et qu'on veut prendre soin de soi, mais parce que Peugeot ne prend pas soin de moi, alors moi je vais prendre soin de moi au travers Peugeot et je me sers et tous mes outils que j'ai à la maison, c'est des outils de Peugeot. Pas toi, Michel, je te rassure. Mais où c'est arrivé que plusieurs se servent? Alors, a priori, ils ont mis après des choses en place, mais il y a une époque où chacun se servait assez facilement, parce que je veux montrer et prendre soin de moi. Mais grâce à cela, en fait, on peut maintenant simplement se réjouir des compétences de l'autre. Et comme dit au début, et même dans l'Église, et c'est quelque chose qui, j'avoue, qui m'énerve terriblement en Suisse, mais où on oppose ceux qui sont plus dans la réflexion que ceux qui sont plus dans l'action. On oppose ceux qui sont plus dans l'étude de la Bible à ceux qui sont plus sensibles. Et on les oppose. Et il y a une petite guéguerre quelque part. C'est qui les plus spirituels? C'est qui ceux qui sont plus proches de Dieu? Je vous donne pas la réponse. Mais il y a quelque chose qui est là et qui est présent, n'est-ce pas, dans notre société et dans nos églises. Mais l'Évangile nous dit, en fait, ce que je t'ai donné comme compétence. Alors effectivement, ça a été vrillé par la chute, mais elles sont très importantes et elles sont là, pas pour toi, mais pour le bien du prochain et pour les mettre ensemble. Et donc, pas besoin de compétition, pas besoin de dénigrer l'autre, pas besoin de te mettre en avant. Réjouis-toi simplement de ce que Dieu t'a donné et réjouis-toi de ce que Dieu a donné à l'autre. Se réjouir de ses propres compétences, de les valoriser et de se réjouir des compétences de l'autre. Et ça permet en fait même d'être dans une saine concurrence. Au travail, rémunéré, à Peugeot, des personnes de Peugeot peuvent être dans une saine concurrence par rapport à ceux de Renault. Le but n'est pas d'écraser. Le but n'est pas d'être absolument le premier pour montrer qu'on est meilleur, mais de donner le meilleur de soi-même pour donner un bon produit, pour le bien du consommateur, et pas pour écraser, encore une fois. Et cela, on peut faire même si personne ne le reconnaît. Et je pense que ça libère aussi celui qui exerce une activité qui n'est pas rémunérée, tel un parent au foyer ou un bénévole pendant son chômage ou un retraité ou autre. Son activité a autant de valeur aux yeux de Dieu, même s'il est reconnu comme quelqu'un qui coûte à la société, mais son activité a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et ça en devrait en avoir aux yeux de l'Église aussi, et qu'il puisse trouver simplement le réconfort et la motivation là-dedans. Mon activité est importante, Dieu me l'a donnée, et je dois en prendre soin. Ça libère aussi, je pense, celui qui travaille ou qui a un travail ingrat. C'est ce qu'on avait vu au départ, hein, ce brown out, celui qui est écrasé par l'absurdité de sa tâche. Parfois, ces personnes qui sont mises au placard, comme on dit, n'est-ce pas? Mais de pouvoir revoir à nouveau, il a de la valeur, non pas en fonction de ce que les autres regardent, non pas en fonction de son grade, non pas en fonction de son poste, mais simplement parce que Dieu lui en donne une, par la création, créée à son image, et avec les compétences que Dieu lui a données. Et alors il peut retrouver un élan et une motivation pour aller au travail. Mais même si personne n'accepte, si personne ne reconnaît, mais donner le meilleur de lui-même, par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Donc voilà pour cette première partie sur l'aspect du travail à l'origine. Donc on travaille parce qu'on a été créé à la ressemblance de Dieu et pour servir notre prochain et glorifier Dieu.